France Musique.
Ничего не говорите.
Ничего не печатайте.
Трг. Ждрв. Снк.
On y revient, le sourire aux lèvres, la chapka vissée sur la tête. Eh bien, c'est l'heure de notre grand interprète de la semaine, Gennady Rozhdestvensky, le grand chef russe auquel nous consacrons une grande rétrospective. Eh bien, c'est tous les jours, 11h à midi, jusqu'à ce vendredi. Aujourd'hui, l'épisode 2, Gennady et l'avant-garde des compositeurs russes. J'atteignis 80 ans, recensant le tout, il apparut que mon répertoire couvrait un total de 2429 œuvres, dans lesquelles 101 premières mondiales et 472 premières en Russie. En plus de tout cela, il m'est arrivé de curieuses aventures avec les compositeurs qui m'envoyaient constamment leurs dernières œuvres. Le facteur ne m'aimait pas trop, il débarquait chaque jour avec un gros paquet de partitions et se demandait quand ce flot allait cesser. « À mon avis, cela n'arrivera jamais », lui répondais-je. On m'a fait la réputation d'être l'homme de la musique contemporaine. Autrefois, à l'époque soviétique, c'était mal vu. Cela voulait dire que j'étais un affreux formaliste qui faisait du prosélytisme pour Shostakovich, Prokofiev, Stravinsky, Schoenberg et Webern, et j'en passe. L'immense majorité des chefs en activité aujourd'hui, s'il leur arrive de jouer des symphonies de Haydn, c'est une ou deux dans le meilleur des cas. J'ai, quant à moi, dans mon répertoire, les 107 qu'il a écrites. Cela, personne ne le sait. Silence total. Oh, Rozhdestvensky, c'est Schnittke. Les gens ne veulent pas comprendre que si je n'avais pas dirigé les 107 symphonies de Haydn, je serais bien incapable de jouer Schnittke correctement. Gennady Rozhdestvensky, il a vraiment eu cette connaissance directe des compositeurs de son époque, et cela sans obéir à quelque dogme que ce soit. À une époque où les dogmes, en tout cas en Europe, il faut le savoir, étaient quelque chose d'assez contraignant en musique contemporaine. Aussi bien qu'il était, plus généralement, le sait, en Russie soviétique. Des dogmes auxquels il se soumettait d'ailleurs avec un sarcasme permanent. Quelque chose de très russe, il s'est quand même débrouillé pour sortir de l'horreur dans laquelle il vivait, tout en étant à tout moment un dissident non affiché vis-à-vis du régime, mais un dissident quand même. Et de la même manière, il était un dissident vis-à-vis des modes de pensée, alors assez rigides aussi, de l'Occident. C'est-à-dire, il ne voyait pas en quoi le fait d'aimer une musique comme celle de Martinou ou Janáček pouvait empêcher d'aimer Schoenberg et Berg ou Webern, des compositeurs qu'il aimait et qu'il dirigeait également. C'est très important, je pense, dans la compréhension du personnage, cette manière qu'il avait de ne jamais se soumettre à quoi que ce soit. Et on va l'écouter, Gennady Rozhdestvensky, après cet arrangement par Shostakovich d'une sonate de Scarlatti, dans une œuvre beaucoup plus étrange, contemporaine, assez fascinante, une œuvre du compositeur Boris Tichenko. Presque à pas de loup entre les démons et les braises encore chaudes, Gennady Rozhdestvensky à la tête de l'Orchestre Symphonique de Moscou dans cette troisième Dante Symphonie, L'Enfer de Boris Tichenko. Vous êtes bien sur France Musique et c'est ici le deuxième épisode de cette rétrospective Rozhdestvensky, avec aujourd'hui l'avant-garde des compositeurs russes. Alors, il y a eu Tichenko, mais il y a eu bien évidemment Chnitke, pour lequel il a beaucoup œuvré. Et je vous propose d'ailleurs de vous lire les mots d'Alfred Chnitke lui-même à l'égard de Rozhdestvensky. Un jour, j'ai fait le calcul et suis arrivé à un total de 40 œuvres qui, à ce jour, ont été écrites à l'intention de Rozhdestvensky. Chacune d'entre elles a fait surface, soit grâce à ses idées, soit parce qu'elle a pour la première fois résonné sous sa direction. C'est peut-être difficile à croire, mais c'est ainsi. En outre, je crois pouvoir dire que la quasi-totalité de mon œuvre est, d'une façon ou d'une autre, reliée à lui. Nos innombrables conversations ont été la source de mon inspiration pour beaucoup de mes œuvres. La fréquentation de Rozhdestvensky a été la grande chance de ma vie. Une œuvre peut-être pas la plus accessible de Chnitke, mais qui possède une histoire assez passionnante et tient lieu presque de manifeste, c'est sa première symphonie, créée en 1974.
Thank you.
Un peu de première symphonie de Schnittke sur France Musique, une œuvre qui contient un peu pêle-mêle un concentré de tout ce qui s'est fait en musique, avec aussi bien du sérialisme, des musiciens qui se lèvent, qui vont et viennent sur la scène, même qui balancent des partitions sur le chef, des jazzmen qui commencent à improviser en plein milieu, mais tout de même une œuvre d'importance majeure, largement saluée par les musiciens, même par des compositeurs tels que Sofia Gubaidouina ou même Gidon Kremer. Ici, elle était bien sûr interprétée par Gennady Rozhestvensky et l'Orchestre Symphonique du Ministère de la Culture. Une autre œuvre de Schnittke, dans laquelle s'exprime à plein tout l'artisanat de ce chef, Rozhestvensky, toute sa personnalité aussi, et surtout tout son humour, c'est la musique qu'a composée Schnittke pour un film tiré du célèbre roman de Gogol, Les âmes mortes. C'est une partition que Gennady Rozhestvensky a ensuite lui-même pas mal remaniée et orchestrée, bien sûr avec l'aval du compositeur, partition qui a même fini par prendre la forme d'une suite d'orchestre, destinée cette fois-ci au concert. Alors bien sûr, on y trouve à la fois l'humour, le sarcasme, tous ces éléments que l'on retrouve si souvent dans la musique écrite sous l'URSS. C'est une œuvre qui demande aussi la participation des musiciens de l'orchestre, au-delà de leur qualité d'instrumentiste, en tant que comédien, par exemple, pour ce qui prend la forme parfois de petits sketchs musicaux. Il s'agit d'une orchestration tout à fait roborative, avec un petit peu de tout, et surtout pas mal d'exotique. On y entend à la fois du marimba, du xylophone, du celesta, du piano et même un métronome.
два последних такта.
Rigolard, indécrottable optimiste, même au concert où il s'autorise tout type d'écart. Gennady Rozhdestvensky dans l'un de ses chevaux de bataille. La fameuse suite Les âmes mortes de Schnittke qu'il a lui-même réorchestrée.
Été classique. Julien Hanke, France Musique.
Schnittke que l'on réentendra encore dans quelques instants dans une œuvre bien plus sombre. Sans doute plus poignante aussi, tout en gardant ce côté iconoclaste vraiment bien à lui. C'est le concerto pour piano et cordes, une œuvre de 1979. Mais je vous rappelle que vous êtes bien sûr France Musique. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre rétrospective Rozhdestvensky, un chef immense, mais aussi un homme qui possédait une soif de culture assez invraisemblable, qui passait son temps à fureter dans les vieux magasins de livres, de partitions, qui adorait lire et écrire. Et c'est tout ce poids de culture, le lourd poids du passé, que l'on entend aussi dans une œuvre comme le concerto pour piano et cordes de Schnittke que voici. concerto pour piano et cordes d'Alfred Schnittke, un chef-d'œuvre avec ce ton un peu post-moderne. Vous avez peut-être entendu ces clusters, vous savez, ces grappes de notes écrasées en rythme et par-dessus lesquelles venaient se rajouter des pupitres de cordes en furie. Il est intéressant de noter, quand on jette un coup d'œil à la partition de ce concerto, que les parties ne sont pas séparées en violon 1, violon 2, alto, etc., mais qu'il y a certains endroits où chaque musicien joue quasiment une partie différente, où le conducteur, la partition du chef, est divisée pour les cordes en pratiquement une dizaine de parties en tout. Schnittke par Roger Zvensky donc, et maintenant j'ai envie de vous parler d'un drôle d'événement, mais qui a eu une sacrée importance quand même. C'est un concert qui a eu lieu le 15 avril 1982, et à ce jour c'est à peu près le seul dans son genre à avoir pu réunir les Russian Three, les trois grands de Russie, Schnittke, Denisov et Gubaidulina. Bon, sans surprise, c'est notre bon vieux Gennady qui a la baguette. On écoute un extrait de l'Offertorium de Gubaidulina, une œuvre en forme de concerto pour violon avec en soliste le violoniste Oleg Gagan. Et voilà un extrait de l'Offertorium de Sofia Gubaidulina, et donc un enregistrement qui date de cette fameuse soirée du 15 avril 1982 où furent joués à la fois Gubaidulina, Denisov et Alfred Schnittke, auquel on va retourner encore une dernière fois. À la baguette, c'était bien sûr Gennady Rozhdestvensky, auquel nous consacrons une semaine d'émission sur France Musique. Deuxième épisode aujourd'hui, et pour nous éclairer, les témoignages du violoniste et cinéaste Bruno Mont-Saint-Jean, qu'il a non seulement beaucoup côtoyé, mais qui a réalisé également des films, et même maintenant un livre à son sujet, au sujet de Gennady Rozhdestvensky. On l'écoute nous parler du maestro à son pupitre.
Il y avait quelque chose chez Gennady qui est quand même peut-être la chose la plus frappante, c'est sa gestique. Ça, hein, il faut le voir pour y croire. Et d'autant plus curieux que dans ses professions de foi, il disait toujours que, par exemple, il a beaucoup enseigné, vous savez, la gestique ne comptait pour rien. Que la gestique, elle découlait naturellement de la connaissance de la musique. Donc il n'a jamais enseigné la gestique. Il a bien entendu, de temps en temps, j'ai vu faire des masterclass avec ses étudiants, il disait, mais attends, tu veux pas laisser à quai le tympaniste qui a pas joué depuis 70 mesures. Donc tu es obligé de donner une indication. parce que il s'est endormi entre-temps, donc il faut continuer à le soutenir son intérêt. Mais la gestique qui était si particulière chez lui, si extraordinairement élégante et évocatrice de la musique elle-même, ça c'est quelque chose qui est absolument unique. Moi je connais pas d'autres chefs d'orchestre qui aient eu cette gestique aussi. C'était dirigé vers le rythme et la couleur. Pour moi, c'est ça que vient de dire Rogerski. C'est le chef du rythme, et c'était de la pulsation et de la couleur. Il arrivait à sortir des orchestres exactement ce qu'il souhaitait, avec une grande scrupule. Je veux dire, c'est quelqu'un qui connaissait ses partitions de fond en comble. Il n'est pas question de laisser de côté quoi que ce soit.
Спросили себе фунт чаю. Это все происходит от того, что люди думают, что человеческий мозг находится в голове.
Совсем нет. Он приносится ветром. Со стороны Каспийского моря.
Завтра в 7 часов совершится странное явление. Земля сядет на Луну.
Об этом и английский химик Уоллингтон пишет.
Je crois que quand on voit vraiment ce qui est, il y avait chez Gennady Rozhestvensky ce côté Janus, ce côté double visage. D'un côté le rigolard, c'était quelqu'un de très amusant. Les gens qui l'ont connu racontent qu'ils passaient leur temps à hurler de rire avec lui. Il voyait toujours le côté comique des choses. Et il disait d'ailleurs que s'il n'avait pas vu toujours le côté comique des choses, il se serait probablement suicidé parce que la vie sous l'Union soviétique était tout simplement insupportable. Il y avait donc le côté rigolard, mais aussi le côté philosophe, celui qui va au fond des choses, cette marque de beaucoup de grands artistes, d'avoir à la fois l'humour et la profondeur. Voilà ce qui caractérisait Gennady Rozhestvensky, qu'on vient d'entendre dans quelques extraits de la suite Gogol d'Alfred Schnittke. C'était lors de ce fameux concert du 15 avril 1982, une soirée qui a réuni les trois grands compositeurs soviétiques de l'époque, Schnittke, Denisov et Goubaïdoulina, et dont on va entendre maintenant la marche qu'ils ont composée conjointement, tous les trois, à la demande express de Gennady Rozhestvensky. Et donc spécifiquement pour ce concert. On imagine bien que c'était pour clore la soirée. C'est Joyeusement pompier et ça s'appelle Marche. Le Tahiti Trot, on reconnaît l'air de la chanson T42, petite plaisanterie musicale qui a été composée, ou plutôt orchestrée, en 40 minutes à la suite d'un pari. Et c'est l'œuvre qui clôt ce deuxième épisode de notre série Grands Interprètes, consacrée au chef russe Gennady Rozhdestvensky, qui nous a quittés l'an passé. Demain, un troisième épisode, Gennady et les grands solistes de Russie. Pour cette émission à réécouter, à podcaster sur francemusique.fr, je remercie Bruno Mont-Saint-Jean et Gheorghi Chornin pour leur aide et leur témoignage. Une émission réalisée par Patrick Lérissé. Je remercie également Pierre Tessier, Zaviato et Cindy Legrumelec. Restez à l'écoute de France Musique. Tout de suite, Charlotte Landru-Chandès pour l'agenda de l'été. Bonjour Charlotte, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Bonjour Julien, et bien aujourd'hui ce sera un petit tour de France car nous allons aller en Bretagne, aussi dans le Maine-et-Loire, dans l'Indre et sur la Côte d'Azur.
Et ben voilà qui donne furieusement envie. Bonne émission et à bientôt alors.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.